Folie des livres, votre rendez-vous littéraire vous est présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Lydée Livre comme chaque samedi à 18h et rediffusé le mardi à 12h35. Si vous nous avez raté, on est en réécoute sur le site de CFM où vous pouvez aussi laisser des messages, des critiques et des suggestions. Monique est là, bonjour Monique.
Bonjour Fred.
Aujourd'hui nous allons vous parler de Colonial et nous allons faire une émission polar. Et Joël, de la librairie La Folle Avoine. Bonjour Joël.
Bonjour Fred.
Qui finira sa chronique sur le bien trop pelu Paul Nizan, en espérant que ça vous donnera envie de le lire.
Pelu, non pas poilu. Hein. Il a passé
non,
la
pas
guerre
poilu.
À 14.
Oh, très drôle. Donc on va parler de Colonial, pourquoi ? Parce que Colonial va venir à Villefranche le 10 décembre à la librairie La Folle Avoine. Alors il y aura une rencontre à 18h30. Dans les caves de la librairie. Et c'est un auteur qu'on a découvert depuis 2012 à peu près. C'est un jeune auteur. Il est né en 1976 à Clamart. Il a fait des études d'ingénieur agronome et a vécu plusieurs années en Guyane à cause de ses études parce qu'il a été à l'origine du parc de la forêt amazonienne. Enfin,
du parc national, oui, amazonien.
Voilà. Merci Monique. Et c'est à son retour qu'il a commencé à écrire des polars, avec toile de fond évidemment la Guyane. Alors c'est vrai que maintenant il est possible de faire le tour du monde en 80 polars, on peut dire. C'est plus du Jules Verne, mais et l'année dernière on vous avait parlé de Chine avec Xiaolong, Olivier Truc, de Mongolie avec Yann Manok. Et là maintenant on va parler de Guyane avec Colonial, parce qu'il est vraiment situé, ses livres sont géographiquement situés en Guyane. Alors la Guyane qui va nous plonger dans des histoires peuplées de passion, de trahison, de violence, de drogue, de politique, de mort. Des intrigues qui disent la Guyane d'aujourd'hui face à ses contradictions et les multiples identités qui la composent. Alors jusqu'à maintenant, il a écrit 3 livres. En 2012, Les hamacs de carton, dont Monique va vous parler après. C'est un premier roman qui donne vie au capitaine Anato, qui va devenir l'enquêteur officiel de Colonial sur cette portion de territoire français, donc la Guyane, aux frontières du Suriname et du Brésil, et surtout connu pour son bagne. Donc...
Le bagne de Cayenne.
Le bagne de Cayenne.
Oui, juste pour revenir sur ce que tu disais, c'est un lien qu'on peut faire effectivement avec tous les auteurs de polar que tu viens d'évoquer et dont on a parlé l'année dernière. Alors je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est ce genre de polar, il y a un côté sociologique, un côté ethnologique qui est vraiment très intéressant, je trouve. On n'est pas que dans le polar et l'enquête pure et simple. Ça va bien, bien au-delà.
On se cultive.
On se cultive, voilà. On apprend des choses. En particulier, bon, les hamacs de carton. Donc, c'est vraiment très profondément ancré dans le social. C'est très documenté et inspiré par la réalité quotidienne de ce territoire hein, qui a des frontières vraiment très perméables, c'est le cas de le dire, et où se côtoient des immigrés, des apatrides et d'autres étrangers en situation plus ou moins régulière et plutôt irrégulière d'ailleurs. Et c'est là-dessus que le fameux capitaine Anato va être amené à enquêter. C'est un personnage intéressant lui aussi, je trouve, parce que bon, il se qualifie lui-même de négropolitain. C'est un noir marron, sachant que les noirs marrons sont les descendants des premiers esclaves qui se sont affranchis,
oui,
hein, et qui se sont installés le long du fleuve Maroni, hein, qui ont vécu là. Et lui, donc, quelque part, il a ses origines là, mais il a toujours vécu en métropole. Et lorsqu'il revient en Guyane, en sa qualité de capitaine de gendarmerie, il va se trouver confronté à ses origines, son passé, dont il ne sait pas grand-chose. Et il est complètement pris dans le feu de ces deux cultures-là. Et se pose toujours la question de savoir il y a une petite sonnerie qui va... qui m'a déconcentré.
Le temps qui t'était parti.
Voilà, je pense que c'est, du coup, voilà. Bon, bref. Donc, il va se heurter à ce problème d'identité. Et on va le suivre dans ce polar-là, qui va mettre en scène le meurtre d'une famille d'orpailleurs, celui d'une fonctionnaire intransigeante, et la rencontre qu'il va faire avec un étrange couple que forme un repris de justice métropolitain et une jeune Junka, donc une autochtone, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc tout ça bien mixé, bien malaxé, et j'avoue que quand on commence la première page, eh ben on va jusqu'au bout sans s'arrêter.
Ouais. Donc ce premier livre va traiter surtout de l'immigration irrégulière. Et en 2013, il a enchaîné avec un livre qui s'appelle « Ceux qui restent en forêt », qui va toujours aux éditions du Rouergue, hein, qui est dans le monde là à nouveau des chercheurs d'or, mais plus situé géographiquement dans la forêt amazonienne, qui est un véritable mur végétal où la police locale pénètre assez rarement et en connaît peu les coutumes et les cultures. Alors évidemment, il y a des histoires de meurtres là-dedans. Bon, moi je vous conseille, vous pouvez de toute façon les lire, peu importe l'ordre. Les personnages, il donne des informations sur eux, mais bon, ils ont leur vie autonome dans chaque livre. Je vais peut-être vous parler un peu plus de Obia, le dernier paru au Rouergue en octobre 2015, dont on va sûrement beaucoup plus parler à la rencontre à la librairie La Folavoine. Alors, il y a toujours Anato, l'originaire, qui est à la recherche de son passé familial, qui est un brillant enquêteur taiseux, au regard si particulier, parce qu'il a un regard jaune, semble-t-il. Il y a son collègue Vacarès. Alors Vacarès, dans les précédents livres, il est plutôt son lieutenant, mais là, il a été radié et travaille comme privé dans Obia. Et puis, il y a Marcy, qui là est adjoint. Alors, c'est un impulsif, un peu bagarreur. Au fur et à mesure des livres, on voit bien que Colaniel est passé d'une écriture classique, un peu linéaire, à une intrigue très élaborée. Parce que là, dans ce livre, Obia, il y a un prologue qui raconte un épisode de la guerre civile au Suriname dans un temps assez lointain, on va dire 20 ans auparavant. Puis on repart dans le présent avec la découverte du cadavre d'un jeune, certainement lié à un trafic de drogue. Anato est chargé de l'enquête sur le jeune qui est en fait trafiquant, et Marcy, son adjoint, le suit dans cette enquête, pendant que Vacarès, lui, est détective privé et enquête sur une banale affaire d'adultère. Alors évidemment, les pistes vont se rejoindre, et Colin Niel mène très habilement l'histoire du pays avec celle du fleuve Maroni, qui charrie toutes sortes de marchandises illégales, qui est une espèce de jonction directe et inespérée entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Et puis l'histoire personnelle de ces personnages, qui, elle aussi, permet de raconter la Guyane. Alors, de quelle famille est né Anato? Finalement, n'aurait-il pas des racines au Suriname aussi? Parce que là, on se rend compte qu'il y a eu une immigration, un afflux de réfugiés à l'époque de la guerre civile. Marcy, l'adjoint, lui, il est lié justement à cet afflux de réfugiés pendant la guerre civile, et il aurait été engagé dans des courants qui s'opposaient à l'avenue massive de réfugiés. Et puis il y a Vacarès, qui lui est un peu le pur de l'histoire, mais la victime aussi,
plutôt la victime,
même. Voilà, mais qui a des intuitions phénoménales et qui aide beaucoup Anato dans la résolution des énigmes. Le titre du livre, il est tiré d'une de ces pratiques magiques qui sont liées à ces pays là, comme la Guyane, la Martinique ou la Réunion, où il y a toujours pas des pratiques vaudou, mais un peu là c'est un bain de plantes un peu magique qui permet de se protéger des balles et qui était surtout pratiqué par les jungle commando au moment de la guerre civile au Suriname. Alors ils avaient l'impression que quand ils avaient ça, ça faisait un bouclier et les balles ne les atteignaient pas. Et là, les trafiquants en fait s'en servent pour les mules qui portent dans leur corps des ovules de cocaïne en fait. Ils prennent l'obia. Et il semblerait qu'ils deviennent invisibles aux yeux de la police. Voilà, ça c'est à voir. Bon, donc il y a plein de choses dans ce livre qu'on apprend. Et il y a le héros qui s'appelle Clifton. Le héros, non, un des morts. Un des cadavres. Il meurt pas tout de suite, mais Voilà, je suis en train de vous spoiler un peu. Il a donné comme nom à sa fille Jay-Z et ça correspond au nom d'un rappeur new-yorkais que Monique et moi nous avons découvert et qu'on va faire écouter, une chanson qui s'appelle Niggas in Paris.
We're gonna skate to one song only. Yes, I have my fuckers in my family. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. But first niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even Pope be here. Ball so hard, since we here, it's only right that we be fair. Psycho, I'm libo to go Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick-tock. All the Mars that's losing time, hitting behind all these big rocks. Ball so hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Ball so hard, let's get faded. Labyrinth for like 6 days. Gold bottles, soul models, spilling ace on my sick days. Ball so hard, bitch behave. Just might let you meet, yay. Shot towns, D-Rose, moving the next, BK. Ball so hard, motherfuckers wanna find me.
That shit crack. That shit crack. That shit crack.
Ball so hard, motherfuckers wanna find me.
That shit crack. That shit crack. That shit crack. She said, yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style. And show me why you deserve to have it all.
Ball so hard.
That shit crack.
That shit crack.
Ain't it, Jay?
Ball so hard.
What she order?
What she order?
Fish filet.
Ball so hard.
Yo, whip so cold.
So cold.
This whole thing.
Ball so hard.
Act like you ever be around motherfuckers like this again. Who's your girl? Grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friends, but I'm in France. I'm just saying, Prince Williams ain't do it right if you ask me. Cause I was him, I would've married Kate and Ash.
Donc Joël va entamer la deuxième partie de sa chronique sur Paul Nizan. On a été resté à peu près au pacte germano-soviétique où Paul Nizan...
Ouais. La transition n'est pas facile après cette musique-là. La seule plage qui peut les,
oui,
aimer, les réunir, c'est la plage de Dunkerque. Mais ça, c'est un petit peu plus tard. Donc, le pacte germano-soviétique 1939, Paul Nizan rentre de Corse où il était en vacances. Et quand il découvre ce pacte-là, il ne supporte pas puisque c'était un pacifiste. Et donc il demande des explications, il n'en reçoit pas suffisamment, il envoie sa lettre de démission à Jacques Duclos, qui était à ce moment-là le secrétaire général du Parti communiste en France. Et donc il démissionne, mais ça n'empêche pas la guerre de se déclarer, donc il est mobilisé, il fait partie d'un régiment de pionniers. Et il va faire la drôle de guerre pour commencer. Et puis après, lors de l'invasion, il se retrouve dans le nord en juin 40. Et là, une balle, je sais pas perdue pour tout le monde, bien sûr, le prend derrière la tête et il meurt sur la plage. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas une plage bien accueillante à ce moment-là en 40 avec la quantité. Il y a eu 200 000 morts. Il faut pas oublier. Juste dans cette période de 40. Il y a quelques survivants, je vous en parlerai d'un la semaine prochaine, Jean Mecker, qui lui a été survivant.
Mais Paul Nizan, c'était quand même quelqu'un d'extrêmement intransigeant, parce qu'il n'y a que lui qui a eu cette attitude si tranchée par rapport au pacte germano-soviétique. Il n'a pas été suivi.
On ne va pas faire un cours d'histoire, donc ça a été un peu plus compliqué que ça. Mais lui, personnellement, comme
oui,
il
je
avait,
parle de sa personnalité à lui.
Lui, ouais. Personnellement, c'est pas qu'il était intransigeant, c'est qu'il était dans sa ligne normale de lutte pour la paix. Il a lutté pour la paix dès le pacte. Il était anti-munichois, enfin bon, toute cette période-là, il était tout à fait conséquent. Et donc à ce moment-là, il pensait que l'Union soviétique et Staline précisément à ce moment-là trahissaient. Donc il a pas accepté et il a été jusqu'à la démission parce qu'il a pas eu d'explication qui était suffisamment rationnelle. Donc il se trouve sur le front. Il continue à écrire. pendant, parce qu'il était, il avait un poste extrêmement important au Parti communiste, puisqu'il était rédacteur en chef de Ce Soir, un quotidien du PC. Il travaillait pour Gabriel Péri qui a été bien connu pendant la résistance, qui a été fusillé par les Allemands. Et donc, ce poste-là, ben, évidemment, il va être enlevé de partout, et il se retrouve dans l'armée, et il continue à écrire. Et il écrit sur la guerre d'Espagne, un roman qui s'appelle Les soirées de Somosierra. Mais ce roman, c'est sa femme Rirette qui sait le contenu de ce roman, parce que ce roman a disparu avec sa mort. Un soldat irlandais a dit l'avoir recueilli, enfermé dans une boîte et enterré sur la plage. Il n'a jamais été retrouvé. Voilà. Donc Nizan, à partir de ce moment-là, exit, on n'en parle plus, il a disparu, il est effacé de toutes les photos. Il est même accusé de traîtrise par Maurice Torres et par Aragon, qui le met en scène dans Les Communistes, dans l'histoire des communistes, sous la forme d'un traître. Et alors là, c'est quand même, ses amis supportent pas, parce que tout le monde sait que Nizan n'est pas un traître, il a jamais été payé par la police pour avoir son attitude. Et c'est... Il y a eu une pétition, et puis c'est en 1960 que Sartre et ses amis, Sartre qui était à Normal Sup avec lui, Sartre et ses amis font republier chez François Maspero le Aden Arabi qui éclate comme une bombe dans la jeunesse de 1960. On était en pleine guerre d'Algérie, et ce roman anticolonial, ce livre, cette charge anticoloniale est accueilli par toute la jeunesse française à ce moment-là. Donc Nizan est redécouvert. Et on va republier les chiens de garde, qui est une autre charge qu'on a ressortie récemment et qui attaque directement ses maîtres. Mmh. Et donc Nizan va être réhabilité d'une certaine façon, et il disparaîtra du livre de Aragon. Il aura été rayé, là aussi on parlera plus du traître. Voilà. Donc Nizan, c'est un auteur à redécouvrir avec tous ces romans dont j'ai parlé la dernière fois. Vous avez La Conspiration, vous avez Antoine Bloyer, vous avez Le Cheval de Troie, qui sont des romans biographiques, hein, c'est-à-dire qui prennent naissance dans sa vie. Et puis, les deux livres magnifiques, Aden Arabi, j'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Et puis, donc, Les Chiens de Garde, qui a été repris par Halimi, sous le nouveau titre, Les Nouveaux Chiens de Garde, qui attaquent les mêmes personnalités omnipotentes qui veulent bien orienter la jeunesse. Voilà, une petite chanson de Marie Lebas pour finir. Tu ne ressembles à personne.
Les rues dans la nuit se ressemblent un peu, et le ciel aussi, qu'il soit gris ou bleu. Certains jours de la vie sont bien monotones. Oui, mais toi, tu ne ressembles à personne. Si tu crois que c'est l'amour qui me fait te voir autrement que tu n'es, tant pis si j'ai tort et j'ai mes rêves d'or, car pour moi, tu ne ressembles à personne. Sais-tu que le vrai bonheur se prend comme ça, comme on cueille une fleur ici ou là. Si d'être avec toi, ça me suffit à moi, et si toute ma vie, je n'ai qu'une seule envie, c'est te voir comme ça et t'aimer pour ça, car vois-tu, tu ne ressembles à personne. Laisse-toi faire, crois-moi, un amour comme ça, aucun autre ne lui ressemblera. Je me demande pourquoi tu m'aimes tant. Je sais qu'il y en a de plus jolis que moi. C'est peut-être vrai, mais crois-moi, je sais qu'il n'y a qu'un seul bonheur pour moi. C'est toi. Les rues dans la nuit se ressemblent un peu, et le ciel aussi, qu'il soit gris ou bleu. Certains jours de la vie sont bien monotones. Oui, mais toi, tu ne ressembles à personne. Si tu crois que c'est l'amour qui me fait te voir autrement, autrement que tu n'es, tant pis si j'ai tort, j'ai mes rêves d'or, car pour moi tu ne ressembles à personne. Sais-tu que le vrai bonheur se prend comme ça, comme on cueille une fleur ici ou là. Si d'être avec toi, ça me suffit à moi. Et si toute ma vie, je n'ai qu'une seule envie, c'est te voir comme ça et t'aimer pour ça. Car vois-tu, tu ne ressembles à personne. Laisse-toi faire, crois-moi, un amour comme ça. Aucun autre, aucun autre, aucun autre ne lui ressemble.
Bon, je ne sais pas si Joël a voulu faire une déclaration d'amour à Paul Nizon, mais ça y ressemble fort. Et on ne dira jamais assez la nécessité de croire dans la lecture. La lecture, manuel poétique du réel. C'est pas de moi. Aujourd'hui, donc, nous vous avons parlé de Colin Niel avec Obia et encore Paul Nizon par Joël. Merci infiniment à Monique et Joël. Et c'est Mathias qui est à la technique. Bonne écoute sur CFM. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
L'idée livre, votre rendez-vous littéraire, vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.